Welcome everybody, bienvenue dans ce 11e numéro des Clés de la Maison Blanche. Cette semaine, on se pose cette question, pourquoi n'y a-t-il pas un troisième parti puissant aux États-Unis ? Il y a eu une tentative ces derniers jours. Bonjour Lionel.
Salut Thomas.
Bon, j'espère que tu es en forme pour ce nouvel épisode. Comment tu vas ?
Bah écoute bien, et toi ? Parce que je te vois pas là.
Ouais, bah écoute, oui, c'est un petit test aujourd'hui. On va le dire directement à nos auditeurs qui ont l'habitude de nous écouter. Nous, on est toujours ensemble hein, quand on enregistre. Mais cette fois-ci, on n'a pas pu se caler notre moment cette semaine. Donc on teste une petite solution technique un peu bricolée quoi.
Voilà, nos emplois du temps ne concordaient pas, mais normalement ça devrait fonctionner. Comme d'habitude, peut-être que vous allez entendre un son un peu différent, c'est pour ça qu'on voulait vous le dire dès le début.
Bon, alors, on va parler de ce troisième parti, Lionel, dans cet épisode. On a évidemment évoqué cette perspective plusieurs fois dans les derniers épisodes sans vraiment rentrer dans le détail. Ces derniers jours, on a cru qu'il y avait peut-être une possibilité que le monde politique américain soit bouleversé. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ?
Oui, alors... Pour être honnête, on se demandait quel thème évoquer cette semaine, parce que c'est vrai que là, il se passe toujours des choses, mais en ce moment, c'est un peu toujours les mêmes choses dans la campagne américaine. Et puis, c'est toi, d'ailleurs, Thomas, qui m'a parlé de ce troisième parti éventuel, no label, c'est-à-dire pas d'étiquette, parti sans étiquette. Et puis, parallèlement, il y avait une question d'un auditeur, Eric, qui m'a écrit sur un réseau et qui m'a demandé « Mais pourquoi vous n'explorez pas une troisième voie possible aux États-Unis ?» C'est vrai qu'on en a un peu parlé sur les candidats indépendants, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est une question intéressante. Et puis donc, il y a un mois, 800 délégués de cette structure hein, qu'on va appeler, parce que ce n'est pas vraiment un parti, ce n'est pas un parti, no label, donc... se sont réunis, puis donc il y avait des donateurs, plusieurs petits donateurs, et ils ont lancé donc ce mouvement avec un chef de file, Mike Hawling, qui est un ancien maire de Dallas, ancien dirigeant de Pizza Hut. Et le but, c'était de présenter un ticket présidentiel de l'unité. Si on regarde sur le site web de ce mouvement, eh bien, il était dit que, eh bien, on présentera un candidat si les deux grands partis choisissent des candidats pour lesquels la majorité des Américains ne veulent pas voter, et on en a souvent parlé ici, c'est le cas, parce que Joe Biden, Donald Trump, c'est quand même un duel dont les Américains ne raffolent pas. Donc cette structure a collecté 50-60 millions de dollars, c'est très peu, là encore on reviendra sur les chiffres de campagne de financement tout à l'heure. Donc ils voulaient organiser un tiers, une candidature tierce. Et l'idée, c'était que de nombreux Américains n'étaient pas contents de choisir entre deux candidats très âgés, très peu populaires. Ils pensaient qu'il y avait une ouverture et en plus, dans les sondages, eh bien, ces sondages suggèrent que beaucoup d'Américains souhaitent davantage de coopération entre les partis.
Bon, et puis finalement, cette tentative, elle est en quelque sorte tombée à l'eau assez rapidement.
Oui, en fin de semaine dernière, finalement, ils ont renoncé à présenter un candidat à l'élection présidentielle. Donc effectivement, c'est une aventure très courte. No Label a annoncé jeudi qu'il ne présenterait pas de candidat. En fait, ils ont essuyé pas mal de refus de beaucoup de sénateurs, d'anciens gouverneurs. Et puis en même temps, il y a pas mal d'opposition, que ce soit de la part des démocrates et des conservateurs. Les démocrates craignent qu'une campagne comme celle-ci morte sur l'électorat de Joe Biden. Je cite un comité qui soutient Joe Biden. Leur décision d'aller de l'avant avec une candidature fantaisiste financée par les donateurs de Donald Trump est honteuse. Eux, ils disent... ouais, c'est un peu dur parce que rien ne prouve, c'est un démocrate, hein, qui est maire démocrate, qui est quand même à la tête de ça, mais les dirigeants de l'organisation, eux, ils jurent que c'était pas du tout leur objectif, hein, au contraire, ils affirment qu'ils voulaient rien faire pour aider l'ancien président. Pourtant, les perceptions ont duré sur cette tentative, on va dire, de bouleverser le jeu politique, alors que peut-être qu'on aurait pu laisser leur chance, mais là, effectivement, c'est fini, pas de troisième voie.
Bon, et tout à l'heure, tu nous as parlé donc du chef de file, l'ancien maire de Dallas, mais est-ce que les No Label avaient pensé à quelqu'un, on va dire, de plus connu ? Est-ce que des personnalités ont été approchées, finalement ?
Oui, alors en fait, il voulait plutôt un républicain en tête de liste, c'est-à-dire pour aller dans le bureau ovale. C'est pour ça que des démocrates les ont soupçonnés d'accointance avec Donald Trump. Mais en fait, leur but, c'était plutôt d'éloigner davantage Donald Trump de la course. Et c'est là-dessus, d'ailleurs, qu'ils sont concentrés tout d'abord. Ils voulaient quelqu'un de rassembleur. Alors, si ça avait été un conservateur, un républicain en tout cas, le vice-président ou la vice-présidente aurait été quelqu'un de démocrate. Ils ont exploré des candidatures issues des deux partis. Par exemple, Joe Manchin, on en a déjà parlé, gouverneur de Virginie-Occidentale, qui est sur l'étiquette démocrate, indépendant, qui a causé pas mal de soucis à Joe Biden quand il a voulu passer ses grandes lois d'infrastructure, parce que Joe Manchin, même s'il se dit plutôt démocrate, il est dans un État qui est très républicain, donc forcément il arrive à concilier les deux. Il n'est pas du tout à gauche hein, du Parti démocrate. Il parlait aussi de Larry Hogan qui a fait deux mandats à la tête du Maryland en tant que gouverneur. C'est quelqu'un de très modéré, qui a un discours. J'ai entendu une interview de lui il n'y a pas longtemps, il est très posé. Voilà, il fait parfois presque envie, on va dire, dans la politique américaine, parce que c'est quelqu'un de serein. Il a dit qu'il ne voterait pas pour Donald Trump. Il va se présenter au Sénat. Et puis, on parlait aussi de l'ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, qui était candidat à la candidature, hein. C'était l'un des candidats à la primaire du Parti républicain. C'était un ancien partisan de Donald Trump, très proche hein, d'ailleurs. C'était son sparring partner, par exemple, avant les débats télévisés. Et puis maintenant, c'est l'un de ses plus féroces adversaires. Il n'a pas de mots assez durs pour décrire le danger que représenterait Donald Trump à la Maison-Blanche. Mais voilà, c'est des noms qui ont été lancés. Ça n'a pas mordu, ils ont été approchés. A priori, personne ne voyait le schéma global.
Bon, toi qui as côtoyé un petit peu les électeurs américains, justement, comment est-ce que tu pourrais expliquer que ce pays, on va dire, a beaucoup de mal avec le concept du centre en politique?
Ça, c'est l'histoire américaine hein, qui est très divisée. Il y a toujours eu deux partis qui ont structuré la vie politique. Donc, on a du mal et puis à sortir de là. Et puis, encore une fois, on y reviendra tout à l'heure, mais il y a le problème de l'argent, de la structure. 50 millions, c'est rien pour monter une campagne électorale. Il faut avoir les reins solides. Donc, voilà, une sorte de conservatisme aussi. Hein. Ils veulent pas, peut-être que les électeurs et surtout le personnel politique ne veut pas casser comme ça la structure électorale. C'est un vieux débat, hein, des politiques, en parlant de ce centre, parlent d'un centre raisonnable, d'autres d'un centre radical, parce que ça effraie certains électeurs et certains politiques. Il y avait quelqu'un qui l'a incarné à une époque, Ross Perot, qui correspondait à ce profil quand il s'était présenté en 1992. À un moment donné, il était même en tête des sondages, et puis en fin de compte, il a obtenu 19% des voix au niveau national, ce qui est beaucoup, même s'il n'a pas remporté un seul État. Et puis, il s'est à nouveau présenté en 1996, mais ses partisans, là, s'étaient fracturés. Il n'a plus fait que 8% au niveau national, mais on a cru qu'il y avait une possibilité de rebattre les cartes du jeu politique. Mais maintenant, on voit que la politique américaine est de plus en plus polarisée. Chacun est dans ses camps idéologiques, en quelque sorte. Et ça bouge presque pas, hein. On voit que les campagnes, se font dans seulement quelques États. La Californie, elle est démocrate, elle restera démocrate pendant des années. Maintenant, il y a seulement 6-7 États qui sont, on va dire, compétitifs au niveau présidentiel, hein. On parle toujours des mêmes, les fameux swing states. Il y a une étude du Pew Research Center récemment qui établissait que à peu près 10% des Américains ont été qualifiés d'indépendants. Ce groupe n'aurait pas de tendance partisane. Ils sont considérés comme moins engagés, en revanche, politiquement, c'est-à-dire moins susceptibles d'être inscrits sur des listes électorales et moins susceptibles aussi de voter. En 2021, 48% d'entre eux se disaient modérés, 30% conservateurs, 20% libéraux. Alors c'est vrai que les élections se jouent souvent sur les indépendants, sur le centre, mais ça reste une matière, on va dire, difficilement palpable.
Justement, pour revenir à notre élection de 2024, On avait parlé dans le quatrième épisode des clés de la Maison Blanche qu'il y en avait là, qui essayait en tout cas de se faire un nom. Alors, qui dit candidat indépendant ne dit pas forcément candidat centriste. Est-ce que tu peux nous parler justement des différentes personnalités qui essayent d'émerger, on va dire, mais très difficilement au-delà de Biden et Trump?
Oui, on avait parlé de la candidate du Parti vert, Jill Stein, de l'universitaire Cornel West, très à gauche. Et puis, voilà, ils sont à côté de Biden et Trump. Je fais un petit point sur les sondages d'ailleurs, parce qu'on en entend beaucoup et ils vont varier. Mais Donald Trump avait pris un petit peu d'avance. Là, le dernier que j'ai vu, c'est du 43-43, ils sont à égalité. Jill Stein et Cornel West font 1%. On voit que c'est des candidatures à la marge. Et 8% pour celui dont on avait parlé aussi, Robert Kennedy Jr.
Ouais.
8%, c'est
Qui est le
beaucoup.
plus, c'est le plus identifié quand même de.
De loin, de loin. Il était même monté à 12. Donc, effectivement, lui, il va peut-être jouer quelque chose, même s'il faudra attendre des mois avant de savoir s'il peut se présenter dans suffisamment d'États, hein, parce que pour ça, pour avoir un impact au niveau national, faut être qualifié dans plusieurs États, parce qu'il y a des règles à chaque fois, c'est pas comme ça, hein, mais pour l'instant, il est qualifié juste dans l'Utah. La règle, c'est là, par exemple, il fallait avoir au moins 1 000 signatures d'élus. Tout le monde ne peut pas les avoir. Voilà, la question va être ouverte. Si jamais il est dans deux États, c'est sûr qu'il ne va pas beaucoup peser. S'il arrive à avoir son investiture dans une trentaine d'États, là, c'est une autre paire de manches. Et très récemment, là, il y a quelques jours, il a choisi quelqu'un sur son ticket, une vice-présidente, quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui s'appelle Nicole Shanahan. C'est une riche avocate de Californie. Elle est spécialisée dans le droit des brevets, je crois. Et en 2020, elle avait plutôt contribué aux campagnes de Pete Buttigieg et Marianne Williamson, qui est une personne qui, on en a parlé aussi, spécialiste du développement personnel. Et elle s'était finalement rangée vers Joe Biden. Donc c'est quelqu'un dans le rang du côté démocrate. Et ce qui inquiète d'ailleurs Joe Biden et son équipe, parce que ça pourrait, là encore, rogner quelques voix. C'est on va dire, un mouvement un peu bizarre de la part de Kennedy, mais il a besoin d'argent et Shannon en a. Elle a déjà déboursé 4 millions de dollars pour lui et a priori, elle a encore de la réserve. Justement, puisqu'on est dans l'argent, je crois que tu voulais faire un point, évoquer la question cruciale des levées de fonds dans les campagnes américaines.
Oui, mais tu commençais à en parler tout à l'heure, justement, que l'argent, c'est crucial et que les no label avaient levé, tu disais combien? 50 millions à peu près?
Oui, 50 ou 60.
Voilà, c'est dérisoire, on va y revenir. Alors juste pour vous donner une idée, alors évidemment, hein, ça n'a rien à voir parce que la France est un pays qui est bien plus petit, plus petite population. Et évidemment, les dépenses de campagne en France sont plafonnées, vous le savez. Marine Le Pen au deuxième tour, donc je prends vraiment les candidats qui se sont qualifiés au deuxième tour, donc Marine Le Pen et Emmanuel Macron en 2022, c'est 11,5 millions et 16,7 millions pour Emmanuel Macron. En 2020, démocrates et républicains aux États-Unis avaient dépensé 14 milliards de dollars pour
Ah
les
oui, c'est
campagnes.
énorme.
Donc voilà, clairement, on joue pas dans la même cour. Alors bon, cette comparaison France-États-Unis, elle n'a pas beaucoup de sens aussi, parce que c'est important de dire que on compte aussi dans les dépenses toutes les campagnes qui ont lieu ailleurs, puisqu'il n'y a pas que l'élection présidentielle. Souvent, on vote aussi au Sénat, à la Chambre, et il y a des élections qui sont très importantes. Les Américains mettent beaucoup, beaucoup d'argent aussi sur les élections sénatoriales qui peuvent faire la bascule. Mais c'est quand même important de dire que c'est notamment dans le camp démocrate, hein, où vraiment on a fait exploser les chiffres. En 2016, la campagne d'Hillary Clinton avait dépensé donc 2,4 milliards. Et Biden, en 2020, c'est 6,6 milliards. Donc vous voyez quand même, on est passé vraiment en espace de 4 ans. Clairement, enfin, c'est quand même assez impressionnant. Et c'est quand même. Voilà, et cette explosion des dépenses, bah Lionel, on regardait un peu les chiffres ensemble. Globalement, ça continue de se profiler, hein, pour 2024. Joe Biden, il vient de bénéficier d'un très bon mois de mars, 90 millions levés en 30 jours, hein, donc notamment grâce à un événement soutenu par de nombreuses célébrités, et notamment des anciens présidents, Barack Obama et Bill Clinton, qui étaient les têtes d'affiche de l'opération, qu'on peut qualifier quand même d'un vrai succès, parce
Ouais,
que.
c'était au Radio City Hall.
Oui, c'était un grand événement. Et donc les démocrates, ils affirment avoir pour l'instant un trésor de 192 millions de dollars pour l'élection, soit plus du double que les Républicains qui disposent d'eux de 93 millions de dollars. Mais en mars, Trump a quand même affirmé qu'il avait levé 65 millions de dollars, que ça se passait bien, qu'il avait levé plus d'argent. Et c'est vrai que Biden, au premier trimestre 2024, environ 122 millions. L'objectif du parti républicain, c'est de récolter donc 2 milliards de dollars pour les échéances de 2024. Et vous vous en doutez, vous me voyez venir, Trump, il a besoin d'argent aussi pour payer ses déboires judiciaires. Il le dit d'ailleurs de façon totalement transparente à ses supporters pendant les meetings. Si on cumule tout ces affaires judiciaires, on parle de plusieurs centaines de millions de dollars qui doivent déjà partir dans ses frais de justice. Et alors son PAC, c'est comme ça qu'on appelle aux États-Unis les comités d'action politique qui centralisent les dons. Alors chez lui, ça s'appelle Save America. Chacun est libre de donner jusqu'à 5 000 $. C'est plafonné, donc 5 000 $, c'est pas énorme finalement. Mais par contre, il a insisté sur le fait qu'il n'y a pas de restriction sur l'utilisation de ce PAC. C'est-à-dire qu'il a le droit d'utiliser cet argent dans les frais de justice justement et pas simplement pour des dépenses de campagne.
Et d'ailleurs, on ne sait pas pour qui vraiment, enfin pourquoi on donne. Est-ce que c'est pour des campagnes publicitaires? Est-ce que c'est pour ses frais de justice? Donald Trump qui a fait fort, entre parenthèses, ce samedi soir, c'est-à-dire qu'il aurait relevé 50 millions de dollars, donc beaucoup plus que Joe Biden et son opération avec Obama et Clinton. Apparemment, il y avait des tables, pour être à sa table, on pouvait débourser 800 000 $. Voilà, donc il a répondu, en tout cas, j'imagine que les chiffres sont exacts, hein, mais il a répondu au lever de fonds de Joe Biden. Je pense pas que tu y étais pas, hein, la table à 800 000 $, Thomas.
Non, j'étais pas invité à Mar-a-Lago en Floride, mais effectivement, en fait, toute l'équipe de Trump aussi, c'est vraiment des professionnels. C'est-à-dire que les levées de fonds, etc., c'est tout un business dans la Trump Organization et dans la campagne de Trump. Et ça, c'est vraiment, enfin, ça fait partie prenante de la campagne. Et il en a besoin. Et d'ailleurs, on en avait rigolé un jour parce que quand t'étais encore aux États-Unis, tu suivais les campagnes et que tu étais en lien avec les mails, etc., tu recevais en fait des relances de Trump. Mais si, vas-y, maintenant, faut me donner de la force, faut payer et tout.
Ouais, c'est quelque chose d'assez un peu agaçant. Alors, au début, c'est marrant parce qu'effectivement, quand tu t'inscris pour t'accréditer à un meeting ou pour recevoir les dossiers de presse, effectivement, tu passes par Save America, dont t'en parlais. Sauf que c'est assez nébuleux. Parfois, tu es obligé de t'inscrire à leur newsletter, alors que tu n'en as pas forcément besoin. Mais, et puis, tu as des mails 2-3 fois par jour quand on approche d'une campagne avant les midterms. Là, c'était la folie. Donc, effectivement, le matin, tu as « Bon, ben voilà, Lionel ». Évidemment, ça commence toujours par les intelligences artificielles. Hein, ça commence par votre prénom pour créer de la proximité. Je crois que c'est le moment de solliciter Donald Trump, de l'aider. Tu as une première relance. Après, tu en as une deuxième en disant « Je crois que vous n'avez pas bien vu le mail ». Si, je l'ai vu, mais enfin bon, je vais pas donner de l'argent. Et puis, tu en as une troisième. Lionel, c'est votre dernière chance. Et puis, finalement, tu as la dernière chance. En fait, ça n'en finit pas. Ils sont très, très efficaces et très vindicatif là-dessus.
Bon, et c'est vrai qu'on parle aussi des anciens présidents, des fortunes, des gens qui payent des tables à 800 000 $, etc. Il faut quand même rappeler, juste pour finir sur ça, que la majorité des dons, ça reste des petits dons de personnes. Oui. Que ce soit côté Trump ou côté Biden, il y avait un chiffre, je crois que c'était plus de 90% des dons, c'était entre 5 et 10 $ chez Donald Trump. Et pour Biden, c'est les chiffres ça, de la campagne de Joe Biden qui n'ont pas forcément été vérifiés, mais en tout cas, eux, ils disent que c'est entre 96 et 97 de dons de moins de 10 $ dans la campagne. Donc voilà, il y a les millionnaires aussi, mais effectivement, après, la base, hein, ça reste de faire appel aux militants et aux dons.
Alors, pour terminer rapidement, tu voulais faire un petit point sur un vote qui te parle, puisque tu l'es, le vote des jeunes qui va être important aux États-Unis.
Ben oui, parce qu'en 2020, il s'était quand même passé quelque chose. Il y avait eu près de 50% de participation des moins de 30 ans. C'était une mobilisation, alors peut-être pas historique, mais en tout cas bien plus élevée que la moyenne, plus qu'en 2016. Il y avait eu une vraie dynamique à l'époque, et cette dynamique, clairement, elle est retombée pour 2024, ça se sent, tous les instituts de sondage s'accordent pour le dire. Je vous conseille la lecture d'un article paru dans Le Monde il y a quelques semaines où le journaliste est parti à la rencontre d'étudiants dans des campus en Pennsylvanie, très important parce que la Pennsylvanie qui est un état clé, Joe Biden va avoir besoin des jeunes s'il veut remporter ses états. Et ce qu'il constate finalement, c'est que les étudiants semblent assez désintéressés finalement, ils se projettent pas du tout dans la figure des deux candidats, Biden-Trump. Alors on a évidemment rabâché dans ce podcast, nous les premiers, la question de l'âge qui arrive évidemment très vite. C'est d'ailleurs Biden qui cristallise un petit peu plus justement cette tension par rapport à l'âge plus que Trump. Ce qui est curieux quand même, c'est que le dernier qui a soulevé, on va dire, la jeunesse aux États-Unis, ça a été Bernie Sanders, qui est pourtant pas tout jeune non plus. Mais voilà, on a cette question qui est très délicate pour Biden, c'est qu'il va avoir besoin des jeunes. Donc il y a cette fracture par rapport au fait qu'effectivement, c'est lui qui paraît plus vieux que Trump. Mais surtout, il y a la fracture sur la question de Gaza. Lionel, on avait un petit peu évoqué ça ensemble. Les facs américaines, c'est le premier foyer finalement de contestation de la politique américaine de soutien à Israël. Donc ça va être vraiment intéressant de voir comment Biden va essayer d'aller chercher, de récupérer cet électorat. Il va en avoir besoin. Et on l'a vu se lancer sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, entre parenthèses, qui veut interdire, mais enfin, il s'est lancé dessus quand même.
Oui, c'est un peu bizarre.
Enfin bon, ça sent quand même les vidéos préparées par les équipes de com. Honnêtement, je suis pas sûr que ça fasse mouche auprès de l'électorat visé. Bon, on verra.
pas sûr, mais effectivement, c'est un vote qu'on va regarder, enfin, que les stratèges américains et des deux parties regardent avec beaucoup d'attention. Ben voilà, on avait dit qu'on ferait un petit peu plus court vu qu'on était en liaison téléphonique, mais finalement, je pense qu'on a fait le même temps que d'habitude. Je voulais juste préciser, j'ai un doute, je sais, à un moment, j'ai parlé de Joe Manchin et j'ai dit qu'il était gouverneur, il a été gouverneur, mais récemment, il était sénateur. Bon, voilà, je sais plus, ça se trouve, j'ai dit qu'il était sénateur, mais je sais pas pourquoi, j'ai un doute. Donc, je préférais le préciser. Ben, on se retrouve bientôt, en tout cas, Thomas, de Visu, cette fois.
Exactement, on va essayer de se caler la prochaine fois. Ben, vous nous direz si cet épisode vous a plu, toujours pareil, hein, voilà, vous n'hésitez pas à commenter, à nous proposer aussi des sujets, parce que tu le disais au début de l'épisode, ça partait un petit peu de là aussi. Donc, continuez à nous écrire, à nous proposer des sujets, et s'il y a eu des petits soucis de son, on s'en excuse, mais je pense que c'était bon. Allez,
à bientôt.
Merci, ciao, bye bye.
Bye bye.